VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Attentat de Paris, le Premier ministre français Manuel Valls a souligné aujourd'hui que le nombre de personnes impliquées dans les attaques de vendredi dernier était encore inconnu, évoquant l'hypothèse de complices en France et en Belgique. En dehors des 7 kamikazes tués vendredi sur les lieux des attentats, les enquêteurs traquent un suspect, Salah Abdeslam, qui serait le 8e homme des 3 équipes ayant directement participé aux tueries et qui est visé par un mandat d'arrêt international. Les tout derniers détails sur l'enquête avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
Les opérations de police se poursuivent évidemment en Belgique, dans la commune de Molenbeek, mais aussi à Paris, où une 3e voiture louée par Salah Abdeslam a été retrouvée ce matin dans le 18e arrondissement. Ce véhicule a été minutieusement fouillé en pleine rue par les policiers qui l'ont localisé avant d'être emmené dans les locaux de la police scientifique pour subir des analyses plus poussées. Les personnes en charge de l'investigation nous ont également révélé que le groupe de djihadistes était en planque dans 2 endroits différents avant de commettre les attaques. Plusieurs chambres d'hôtel à Alfortville, en banlieue sud de Paris, et une maison à Bobigny, en banlieue nord. En Belgique, 2 individus qui auraient aidé Salah Abdeslam à quitter la région parisienne dans la nuit de vendredi à samedi ont été inculpés. 5 arrestations en rapport avec les attentats de vendredi ont eu lieu à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Enfin, le commanditaire de ces attaques aurait été identifié, Abdelhamid Abaoud, belge de 28 ans, aujourd'hui en Syrie. D'ailleurs, les autorités n'excluent pas la possibilité que Salah Abdeslam soit en route en ce moment même pour la Syrie. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant. Au Rwanda, les sénateurs ont adopté aujourd'hui à leur tour, après les députés, une modification de la Constitution permettant au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de diriger potentiellement le pays jusqu'en 2034. L'Assemblée avait voté en faveur des mêmes nouveaux articles de la Charte fondamentale le 29 octobre dernier. Et puis au Burundi, le directeur du groupe de presse Iwachu, propriétaire d'un hebdomadaire à Bujumbura, a comparu hier devant la Cour suprême dans l'affaire du coup d'État manqué du 13 mai dernier. Antoine Kabourae, qui a aussi la nationalité belge, est le seul responsable de la presse privée qui est resté dans la capitale burundaise. Après 4 heures d'audition, il est retourné chez lui mais doit rester à la disposition de la justice. Sa défense affirme que rien ne peut l'impliquer dans ce putsch avorté. Au micro d'Éric Manirakiza, les explications de son avocat conseil à Bujumbura, Maître Lambert Nsabimana.
Rien ne le rattache à ces histoires de coup d'État. Seulement, nous craignons que ça le procède d'une manœuvre d'intimidation. Vu la situation dans laquelle nous sommes, c'est pratiquement le seul organe indépendant qui fonctionne pour le moment. Quand on commence à être convoqué dans des dossiers de coup d'État, alors qu'on est une personne qui n'a rien à voir avec tout cela, effectivement, si on est une personne raisonnable, il y a lieu de s'inquiéter. Mais d'emblée, rien ne concernait les articles qui auraient été diffusés ou envoyés pour l'audition d'aujourd'hui. Pour le moment, on ne peut pas divulguer tout ce qui faisait l'objet de cette instruction. Mais précisément, le magistrat a vu visiblement qu'il n'y a aucune connexion de près ou de loin en rapport avec le coup d'État comme tel. Bien entendu, ça ne tient pas la route, pas du tout, parce qu'un journaliste est un journaliste. Je ne vois pas à quoi est-ce qu'il peut concourir à l'exécution d'un coup d'État.
Maître Lambert Nsabimana, avocat à Bujumbura. En RDC, les nouveaux chefs de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, investis aujourd'hui par le président Joseph Kabila, à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2016. C'est ce qui ressort d'une ordonnance du chef de l'État lue ce mardi à la télévision nationale. Corneille Nanga, Norbert Basengezi et Pierrette Mwenze ont été nommés respectivement au poste de président, vice-président et questeur de la CENI. Ils accèdent à leurs fonctions après la démission successive de leurs prédécesseurs. Depuis l'invalidation du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle en septembre, l'incertitude règne sur la tenue de la présidentielle censée avoir lieu avant la fin novembre 2016. Par ailleurs, le nouveau représentant spécial de l'ONU en République démocratique du Congo est arrivé hier à Kinshasa. Des précisions avec Eddy Isango.
Maman Sambo Sidikou succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidikou était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il a été nommé début octobre pour diriger la mission onusienne la plus importante au monde, avec près de 20 000 soldats et policiers. Il arrive en RDC alors que les relations avec Kinshasa sont tendues depuis plusieurs mois. Il y a eu des divergences sur la façon de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays et des tensions politiques persistent autour de la tenue de la présidentielle censée avoir lieu en 2016. Doté d'une brigade de quelques 3 000 hommes, autorisé à recourir à la force, la MONUSCO a pour tâche de protéger les civils et de neutraliser la cinquantaine des milices dans l'est de la RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en Afrique centrale. La mission de l'ONU en RCA devait être renforcée par 300 casques bleus sénégalais à l'approche des élections de décembre. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Ces renforts font partie d'une force de réaction rapide de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils seront redéployés pendant une période de 8 semaines et seront sur place dès que possible, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va demander le feu vert du Conseil. Celui-ci tenait lundi des consultations à huis clos sur la situation humanitaire et sécuritaire. L'Égypte devrait par ailleurs envoyer 750 soldats et la Mauritanie 140 policiers pour renforcer les 12 000 hommes de la MINUSCA. Ces renforts pourraient être sur place à temps pour une visite du pape François en Centrafrique les 29 et 30 novembre si elle est maintenue. Le premier tour du scrutin présidentiel et des législatives est prévu le 27 décembre et un référendum le 13 décembre. Un éventuel second tour est prévu le 31 janvier 2016.
Cap sur l'Afrique de l'Ouest, en Guinée, le dernier cas connu d'Ebola, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée, a été officiellement déclarée guérie lundi. Plus de détails avec Jacques Aristide.
C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Le bébé, dont la mère âgée de 25 ans, a succombé au virus après l'avoir mis au monde le 27 octobre, était soigné au centre de traitement d'Ebola de MSF à Conakry. Prénommée Noubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, la petite fille ne présentait plus aucun signe négatif. Mais prudence tout de même, Laurence Assaï de MSF Guinée a indiqué que comme il s'agit du premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuerait à recevoir un soutien médical avant de retourner chez elle. La fin de l'épidémie pourra être déclarée si aucun nouveau cas n'est signalé dans 42 jours, c'est-à-dire vers la fin décembre.
Au Burkina Faso, la campagne pour la présidentielle du 29 novembre entre dans sa deuxième semaine. Il y a 14 candidats en lice pour cette première élection post-Compaoré. Pour le géographe burkinabé Drissa Diarra, le scrutin est très compétitif. Ses arguments au micro de Bagassi Koura.
Évidemment, tout le monde a sa chance parce que chacun des candidats croit effectivement à sa victoire. On constate cela déjà. Et l'autre avantage ici est que le gouvernement de la transition joue dans la mesure de sa possibilité la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passés en tant que tel. Donc cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
On voit qu'il y a 14 candidats, mais il y a seulement 2 femmes. Comment on peut expliquer cela?
C'est la réalité politique qui est comme ça dans notre environnement politique. Les femmes hésitent effectivement à rentrer dans la politique. Tout le monde veut que la femme s'engage effectivement sur le terrain politique pour s'affirmer, mais personne ne veut que sa propre femme s'engage.
Le géographe burkinabé Drissa Diarra au micro de Bagassi Koura. On retourne à l'actualité internationale. La Russie a admis aujourd'hui que le crash de l'Airbus de la compagnie russe Metrojet dans le Sinaï égyptien était un attentat. Information communiquée par le chef des services secrets russes FSB, Alexandre Bortnikov. Le crash qui a eu lieu le 31 octobre dernier a fait 224 morts. Moscou promet de trouver et de punir les responsables où qu'ils se cachent dans le monde. En représailles, le président russe Vladimir Poutine a également annoncé une intensification des frappes aériennes en Syrie où des chasseurs et bombardiers russes opèrent depuis le 30 septembre. Et enfin, les Syriens désireux de venir aux États-Unis font les frais des attentats de Paris. Près de la moitié des 50 États américains s'opposaient lundi à l'accueil des réfugiés syriens au risque de faire l'amalgame entre réfugiés et terrorisme dénoncé par le président Barack Obama. De l'Ohio au Texas, plus de 20 gouverneurs, presque tous républicains, mais aussi des candidats à la Maison Blanche et d'influents membres du Congrès, ont annoncé ne plus vouloir accueillir de réfugiés syriens, de crainte qu'un éventuel terroriste ne se cache parmi eux. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.